Vous écoutez RTL.
RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité qui est un vilain défaut, sauf jusqu'à 22h sur RTL. Ça va Sidonie ?
Ça va très bien Thomas, salut à vous. Bienvenue pour cette nouvelle semaine de curiosité, la dernière de l'année.
C'est la dernière de l'année, déjà, comme le temps passe. Alors au sommaire ce soir.
Un voyage fantastique au pays des poivres. Vous savez qu'on ne connaît qu'une infime partie des poivres produits dans le monde.
Et puis un anniversaire, le 40e anniversaire de cette chanson-là.
Cette année-là, je chantais pour la première fois.
On vous racontera comment Claude François, évidemment, est resté à la mode 38 ans après sa mort en mars 78.
Mais tout de suite, on entre dans des lieux sacrés.
RTL.
La cathédrale Notre-Dame de Chartres, qui témoigne du génie technique du Moyen-Âge, est considéré dans le monde comme le chef-d'œuvre de l'architecture gothique française. Pourtant, l'histoire de cet édifice religieux cache une sombre légende née des plus bas instincts de l'homme.
La curiosité est un vilain défaut.
Les Chartrains ont enfin une cathédrale dont ils peuvent être fiers.
Jusqu'à 22h.
En réussissant à édifier ce qui paraissait impossible, ils ont réalisé un chef-d'œuvre d'architecture jamais égalé.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est un lieu qui a marqué mon enfance, la cathédrale de Chartres. Je l'avais visité après un pèlerinage avec les scouts, ça ne nous rajeunit pas. C'est un lieu.
J'imagine.
Oui.
Tout petit comme ça, avec votre petit foulard et votre short.
Oh oui, c'était mignon. Petite chemise bleue, un foulard, bon voilà, c'était bien. En tout cas, c'est un lieu sacré qui, pour certains, dégage une énergie pas comme les autres. On vous raconte l'histoire de ces lieux avec notre invité. Bonsoir Thierry Gauthier.
Bonsoir Thomas. Bonsoir Sidonie.
Bonsoir Thierry.
Bienvenue, vous êtes sourcier, radiesthésiste, vous étiez venu dans notre émission sur RTL pour nous raconter, nous parler de votre métier. Et là, vous allez nous expliquer comment ces lieux sacrés ont été construits, donc cette cathédrale de Chartres, pour commencer, chère âme d'enfance. Comment elle a été conçue déjà ?
Écoutez, quand on rentre dans la cathédrale, moi ce qui m'a frappé, c'est qu'à l'intérieur, on a l'impression d'être dans un instrument de musique, un violon. Les piliers qui sont là, qui soutiennent la voûte, on a l'impression d'être à l'intérieur même et que la musique intérieure se trouve bien là où on entre. Et on va voir ensemble la vibration qui peut être produite, qui est l'archet en fait, qui va faire vibrer toutes ces structures. Mais c'est vraiment construit comme un instrument de musique.
C'est-à-dire, quand on regarde les plans, on voit se dessiner un violon, ça va jusque-là ?
Non, c'est...
C'est une impression.
Violon, une comparaison, ouais. Mais c'est quand on rentre à l'intérieur. On a l'impression de rentrer à l'intérieur d'un instrument. J'étais luthier, c'est pour ça que ça m'a frappé.
Ah oui.
J'étais luthier une époque.
Ouais.
Et on a vraiment l'impression d'être dedans. L'art, la façon de disposer les éléments, on a vraiment l'impression que les personnes, les constructeurs, les bâtisseurs, ont voulu transmettre la vibration du sol au plafond par l'intermédiaire des colonnes.
Et alors justement, ces colonnes, dans quelle pierre ont-elles été taillées,
les piliers ? Toute la cathédrale. La cathédrale, elle a été faite dans un calcaire très dur, le calcaire qui se trouve dans la carrière qui est près de Chartres.
Mmh.
Et ils l'ont emmené pour des raisons de facilité, bien sûr, mais un très bon calcaire. Le calcaire de Berchère.
Cette cathédrale de Chartres, elle a été conçue quand, construite quand et sur quel emplacement ? Parce que ça, c'est important aussi.
Alors, la durée de la construction, elle est très longue en fait, parce qu'il y a eu plusieurs cathédrales. Ça s'est passé pendant plusieurs siècles, elles ont brûlé à tour de rôle. Mais celle qu'on connaît actuellement a été construite pour la majeure partie du chantier au début du XIIIe siècle.
Sur 26 ans. Sur un emplacement, un lieu particulier ?
Oui, vous avez raison, sur un emplacement particulier. C'est-à-dire qu'avant l'ère chrétienne, on avait donc le tertre de Chartres où se trouvait une grotte druidique. Donc les Celtes y allaient, descendaient. Il est dit qu'il y avait un autel, sans doute une table de dolmen et un puits. Ça, c'est important, il y avait un puits. Et sur l'autel, une représentation, une statue de la terre-mère.
Et à l'époque romaine, on y pratiquait quel culte ?
Alors, des fouilles ont été réalisées. Ils ont retrouvé sur leur tertre de Chartres des traces du culte d'Isis, toujours la terre-mère. Et donc, par la suite, bon, la christianisation, l'ère chrétienne et la construction de la cathédrale.
Mais c'est pas un hasard si cet emplacement a été choisi.
Ben que ce soit à Chartres ou ailleurs, on reprend les mêmes lieux de culte pour... Les religions changent, bien sûr, mais le lieu a une importance fondamentale.
Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces lieux ? Pourquoi ils sont choisis ?
Ah, la réponse est difficile à donner, puisqu'on a une conception, nous, du 21e siècle. On réfléchit avec notre tête, nous sommes intellectuels, et c'est difficile de juger ce qui se passait à l'époque. Mais la comparaison la meilleure que je puisse vous faire, c'est tout simplement de parler de l'acupuncture. Si vous demandez à un acupuncteur ce qu'il fait, il va vous dire « moi je mets des aiguilles d'acupuncture sur des points de méridien ». pour débloquer l'énergie qui circule. Oui. Et bien sur la Terre, c'est la même chose. Vous avez des méridiens énergétiques parce qu'il y a des grands flux d'énergie qui passent.
Par où ils passent? Ils passent par l'eau, par exemple? Alors, il y a souvent de l'eau sous ces lieux sacrés?
L'eau provoque cette énergie. Les Chinois, c'est le dragon à nageoire. Et le dragon ailé, c'est le dragon céleste. C'est l'énergie qui vient du ciel. Donc ces grands lieux d'énergie se trouvent, si on parle des grands dolmens, des aliments de Karnak ou des monastères ou des cathédrales, on les retrouve sur les points d'intersection de ces énergies-là.
Mais ça, on le découvre aujourd'hui, où les Romains, par exemple, sur cet emplacement de la cathédrale de Chartres, donc quand ils vouaient un culte à Isis, le savaient déjà, pressentaient qu'il y avait des énergies. Est-ce qu'on sait s'ils parlaient déjà de ça?
Les Romains savaient des choses. Mais nous aussi, on sait des choses. Mais un savoir s'est perdu. C'est pour ça qu'il a été pris dans les mains des artisans bâtisseurs. Il y avait un savoir druidique. Alors, je parle des druides, mais c'est vrai, parce que dans les sculptures qu'on peut voir dans certaines églises, chapelles, cathédrales, bien évidemment, il y a des symboles qui n'ont pas leur place, si on se réfère à la religion chrétienne.
Alors on expliquera tout à l'heure.
Ils ont leur place dans la tradition druidique.
Oui, alors on expliquera tout à l'heure le sens de certains de ces symboles. D'ailleurs, ça peut être étonnant, amusant pendant ces vacances d'essayer d'aller visiter une cathédrale ou une église pour trouver ces symboles. On y reviendra tout à l'heure. Thierry Gauthier, vous racontez l'histoire de ces lieux sacrés et de leur énergie dans un livre qui est publié aux éditions Ouest France. On va terminer sur cette cathédrale de Chartres parce qu'il y a quand même des lieux dans le site lui-même à découvrir. Par exemple, il y a un labyrinthe. Il a un rôle particulier. Particulier, selon vous?
Alors, le labyrinthe de Chartres, comme tous les labyrinthes, c'est un parcours. Donc, le labyrinthe de Chartres, à l'origine, c'était le chemin de Jérusalem. C'était pour ceux qui n'avaient pas pu aller en croisade et qui faisaient leur parcours à l'intérieur du labyrinthe.
Mais il est où? Il est sous la cathédrale?
Alors, le labyrinthe, quand on rentre dans la cathédrale, vous avez l'avant-nef et après vous avez la nef. Il est au centre. Il est dans la nef de la cathédrale. Le labyrinthe est très grand, c'est le plus grand de France. Il fait environ 269 mètres de circonvolution intérieure. Hein.
Dans la cathédrale?
Dans le labyrinthe. Ouais. Lui, il fait 12,90 mètres de diamètre. Pardon. Ouais. Et à l'intérieur, vous avez des méandres et vous marchez sur 260 et quelques mètres. C'est impressionnant.
Ouais. Et donc, c'est quoi pour vous en termes de concentration d'énergie, puisque c'est le thème de votre livre?
Alors, le labyrinthe en lui-même, au départ, est un chemin méditatif. C'est comme ça qu'il est qualifié aujourd'hui. Il représente le parcours spirituel d'un individu. Vous rentrez dans le labyrinthe et dès le début du labyrinthe, vous vous approchez du cœur, mais après du labyrinthe, du centre, et après vous vous en éloignez pour mieux y retourner, et comme ça pendant un certain temps. Ça représente un chemin spirituel. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est l'emplacement du labyrinthe n'est pas dû au hasard. Sous le labyrinthe, vous avez un courant d'eau qui passe. Et au-dessus du labyrinthe, vous avez une voûte. Et le labyrinthe est exactement au milieu de cette distance qui sépare l'eau de la voûte.
On continue de découvrir les mystères de ces lieux sacrés, une veine d'eau et puis aussi une orientation en fonction du soleil. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
C'est la curiosité sur RTL, une émission où l'on aime visiter des lieux de notre patrimoine et découvrir leur histoire, souvent surprenante. C'est ce que l'on fait avec notre invité Thierry Gauthier, radiesthésiste et sourcier qui se passionne pour l'énergie des lieux sacrés. Les églises sont souvent construites sur des veines d'eau, c'est ce que vous nous avez appris tout à l'heure. Et les pierres sont orientées aussi, on l'apprend avec vous, en fonction du soleil. Comment ça s'explique?
Il faut une complémentarité. L'eau souterraine est froide, elle est sous la terre, elle doit être opposée au soleil. Et pour que le lieu, finalement, explose en énergie, il faut la rencontre des deux. Donc, que ce soit un dolmen ou une église ou une chapelle, le monument est orienté au soleil.
Donc, ça veut dire que le soleil doit entrer, le soleil doit illuminer le monument pour le mettre en valeur aussi?
En fait, le monument est construit à l'aplomb d'une veine d'eau, dans l'axe de la veine d'eau. Et donc, le soleil doit, à un moment de l'année, rentrer pour être pile dans l'alignement de la veine d'eau. Et là, on a une jonction du soleil et de l'eau, du froid et du chaud, du yin et du yang, diraient les Asiatiques.
Mais ça ne marche qu'une seule fois, ça, parce que le soleil, il est pas toujours, il se lève pas toujours exactement au même endroit, etc.
Oui,
etc.
Oui, bien sûr, c'est le meilleur jour de l'année.
Alors, c'est quel jour? Ça dépend des
endroits. Si vous prenez Chartres, c'est le solstice d'été. Si vous prenez Reims aussi, c'est le solstice d'été. Oui. Par contre, si vous allez à Carnac, c'est aussi le solstice d'été, comme par hasard, mais il y a des endroits qui sont orientés au solstice d'hiver ou à d'autres dates, comme au Mont-Saint-Michel, où on a des orientations tout à fait différentes.
Et pour illustrer, Thierry Gauthier, cette concordance entre le soleil et la veine d'eau, vous prenez par exemple l'église du Mont-Saint-Michel, qui est orientée d'une manière très particulière.
Ah oui, alors ça c'est très intéressant, parce qu'au Mont-Saint-Michel, vous avez deux églises. La grande église abbatiale que tout le monde connaît, qui est en haut du mont, qui est orientée au 8 mai, le jour de la Saint-Michel de printemps.
Donc, il faut bien comprendre, le 8 mai, c'est le jour où le soleil se lève exactement dans l'axe.
Dans l'axe.
D'accord, de la nef en fait.
Exactement, ouais. Dans l'axe. Il rentre par le cœur, il ressort par la porte d'entrée finalement.
D'accord.
C'est comme ça que ça se passe.
Okay.
Et l'autre église, l'église Saint-Pierre qui est en contrebas, c'est l'église paroissiale, est orientée à la Saint-Michel d'automne, parce qu'il y a deux Saint-Michel dans l'année, au 29 septembre. Parfaitement.
Donc les bâtisseurs ont choisi cette orientation sciemment, ce n'est évidemment pas un hasard.
Bien évidemment.
Et donc c'est lié au nom donné à la cathédrale ou à l'église elle-même, le plus souvent.
Le nom du saint vous indique à quel moment de l'année le jour de sa fête. Simplement, le calendrier romain a changé depuis l'époque, et la date n'est plus forcément la bonne. Donc la meilleure façon de savoir, c'est de prendre sa boussole.
Dans votre livre « L'énergie des lieux sacrés » que vous publiez aux éditions Ouest-France, Thierry Gauthier, vous affirmez que ces sites religieux qu'on parcourt là avec vous depuis quelques instants vous semblent connectés les uns aux autres. Alors moi qui suis extrêmement terre-à-terre, je me dis « Ouh, ça veut dire quoi ?»
Moi, j'ai simplement observé. Au départ, j'étais tout à fait presque incrédule. Ma curiosité était éveillée, voilà ce que je peux dire.
Ça tombe bien.
C'est ce que vous faites avec nous.
Vous êtes au bon endroit.
Oui, au bon endroit, je sais. Et tout simplement, si vous allez au Mont-Saint-Michel, vous regardez les quatre mégalithes les plus intéressants de la région sur une distance de 30 km. Ils sont parfaitement alignés en ligne droite. Il y a d'ailleurs le menhir du Chandelan, qui est un des plus grands menhirs de Bretagne. Il fait presque 10 mètres. Les cinq sont parfaitement alignés avec le Mont-Saint-Michel, où autrefois, il y avait un dolmen.
Mais aligné sur quel axe? Parce qu'on peut toujours tirer une ligne droite entre
Alors on peut tirer une ligne droite entre deux points, mais entre cinq points.
C'est pas faux.
De mégalithique sur 30 km, c'était pas facile.
D'accord.
Et donc ça, c'est reconnu par les archéologues.
Et donc nos auditeurs, ils peuvent prendre une carte.
Alors ça, ils peuvent
de la région et ils vont tracer une ligne droite entre cinq points, donc le Mont-Saint-Michel, le menhir le plus haut, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Et Chandelan, le menhir de Chandelan, vont trouver l'autre. Mais pour les auditeurs, le plus intéressant, ça va être de faire l'alignement des sites dédiés à Saint-Michel. Vous faites une ligne droite qui va d'Irlande, les Skellig Michael, c'est les îles Saint-Michel si vous voulez, en Irlande de l'Ouest. La ligne part de là, arrive au St. Michael Mount, le Mont Saint-Michel anglais, arrive au Mont Saint-Michel français, arrive à la Sacra di Michele, un monastère bénédictin dédié à Saint-Michel en Italie, et ensuite finalise complètement son tracé, donc sur plus de 2000 km, là où est apparu pour la première fois l'archange, au Monte Gargano, dans les Pouilles, sur le bord de l'Adriatique en Italie.
Une ligne droite de plus de 2000 km.
Un alignement parfait, oui.
Vous parliez des dolmens et des menhirs, mais ils ont souvent précédé les églises en fait. Ça veut dire quoi? Que ce sont les premières œuvres de la religion, ce qui rassemble les hommes autour d'un rite?
En fait, c'était une construction énergétique rudimentaire. On voit un menhir, on voit un dolmen, et on peut s'imaginer après, on va l'affiner et le menhir va devenir un clocher. Et le dolmen, le corps de la chapelle. Tout simplement. Le but, la pierre en elle-même, le granit, va capter les rayonnements de l'eau sur laquelle il se trouve. Mais si vous construisez de manière à canaliser cette eau, en mettant les pierres dans un certain sens, en ayant des proportions, vous allez pouvoir la faire circuler dans l'ensemble du temple pour que plusieurs personnes puissent en bénéficier.
Et justement, grâce à vous, on va comprendre quel pouvoir on prêtait à ces sites, à ces dolmens, à ces menhirs. On va faire rentrer un druide dans le sillage de la curiosité, il va nous expliquer tout ça.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Il est enfant de Dieu et enfant des hommes. Il est Dieu, la révélation de notre vocation d'homme, devenir enfant de Dieu.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Samedi soir, pour la messe de minuit, vous étiez peut-être dans une petite église ou dans une magnifique cathédrale. Vous n'avez sans doute pas remarqué certains messages secrets laissés par les bâtisseurs de ces lieux sacrés. On va les découvrir avec notre invité, le sourcier et radiesthésiste Thierry Gauthier. Mais avant de décrire certains de ces messages, il faut rappeler que nombre de ces lieux sacrés, de ces lieux chrétiens, ont été construits sur des sites sur lesquels il y avait auparavant des menhirs, des dolmens, des sites sur lesquels les druides œuvraient. Quel pouvoir prêtait-on à ces sites, à l'énergie de ces sites, Thierry Gauthier?
Alors, les pouvoirs de l'époque, on peut difficilement l'imaginer, par contre, il en reste, puisque encore aujourd'hui, vous avez de nombreuses fontaines, ça fait plus de 2000 ans que ça dure, on connaît la tradition de fontaines miraculeuses. Les gens viennent se faire soigner par la fontaine, Donc ils espèrent une guérison. Les Celtes pratiquaient ça auprès de la déesse Equana, la Seine.
Mais dans votre livre, L'énergie des dieux sacrés, qui est publié aux éditions Ouest France, vous décrivez par exemple à Carnac, on menait quoi, des animaux malades entre les menhirs, c'est ça?
Oui. Même aujourd'hui, on peut encore les mener si on en a envie.
Si on y croit.
Mais c'est vrai, dans la tradition, les gens amenaient les bêtes malades parce que l'énergie rayonnée par le menhir était bienfaisante, curative. Il pouvait réguler, guérir en quelque sorte la bête malade. Mais il y a des lieux aussi où les gens se déplacent pour guérir.
Et les femmes enceintes aussi allaient se balader entre les menhirs?
Oui, il y a même des endroits plus particuliers où il y a un menhir seul. Alors c'est vrai que le menhir est connu comme un symbole phallique du fait de sa forme, mais surtout il y a...
Oui, mais une fois que la femme est enceinte, pourquoi elle se balade? Le phallus a fait son œuvre si la femme est enceinte.
Non, mais vous avez par exemple, mais il y en a plusieurs en Bretagne notamment, mais à Plomeur-Bodou par exemple, vous avez la chapelle de Saint-Sanson, où vous avez à quelques mètres de la porte d'entrée à l'extérieur un très beau menhir. Et depuis toujours, les femmes qui veulent avoir un enfant, qui n'arrivent pas à avoir d'enfant, viennent frotter leur dos contre le menhir en espérant une grossesse.
Donc c'est plus les femmes qui ont envie d'être enceintes plutôt que les femmes enceintes, c'est ça?
Oui, c'est les femmes qui veulent être enceintes.
Alors on va proposer à nos auditeurs sur RTL de profiter là, de ces vacances, pour ceux qui ont la chance de prendre quelques jours de repos, pour aller dans des églises près de chez vous et chercher des indices comme ça, des indices de secrets laissés par les bâtisseurs. Par exemple, s'ils trouvent un escargot, ça veut dire quoi?
L'escargot, c'est la spirale, le spiritus mundi, comme disait Vincenot, c'est l'énergie, la vouivre, l'énergie tellurique qui est là et qui anime le lieu. On va la retrouver chez les Celtes avec le triskel, la triple spirale qui représente la terre, l'eau et le feu.
Donc ça, c'est le sens de l'escargot. Alors, plus surprenant...
La chouette.
La chouette, oui.
La chouette et le hibou.
La chouette et le hibou, c'est le doride, en fait. C'est celui qui voit là où les autres ne voient rien. C'est-à-dire que c'est l'oiseau qui voit dans la nuit, alors que les autres ne peuvent pas voir. Donc il a une connaissance, il a un savoir, il a la connaissance.
Donc ça veut dire que si on voit une chouette ou un hibou dans une église, ça veut dire qu'un druide est venu par là donner ses conseils.
Ou que les bâtisseurs réclament
les bâtisseurs,
de la science juridique, c'est ça?
Les bâtisseurs ont voulu laisser une trace de leur savoir. Ils avaient la connaissance qui venait du druidisme.
Autre exemple qui est dans votre livre, alors qui est très surprenant, on est à Notre-Dame-de-l'Épine, c'est dans la Marne. On y voit une sculpture qui montre une truie qui joue de la harpe. Allons bon.
Oui, allons bon. C'est le genre de sculpture, moi, j'ai toujours adoré visiter les chapelles et les cathédrales. La religion m'intéresse énormément. Mais il y avait des sculptures vraiment, non pas qui me décevaient, mais qui me surprenaient en tout cas. Voir une truie, c'est pas sa place. Et en fait, il y a plusieurs chapelles ou églises en France où on voit des truies. Et en fait, j'ai cherché, ça c'est une recherche intéressante, qu'on peut faire en bibliothèque. Et en fait, la truie symbolise le druide. La truie vient de druides. C'est du celte qui veut dire les très savants. Le mot druide vient de druides. Et de truie, druide. Une sorte de jeu de mots qui s'est opéré ici. Donc pourquoi une truie joue de l'harpe? Tout simplement qu'on la voit bien d'ailleurs. Elle est tout en haut près des gargouilles, au plus proche du ciel. Elle a des grosses mamelles. Donc les mamelles sont là pour donner la nourriture, le savoir druidique, la connaissance à celui qui va construire. Et la harpe est l'instrument qui s'adresse aux dieux. C'est le son le plus cristallin avec la lyre.
Une autre sculpture, Thierry Gauthier, qu'on peut découvrir dans une église, une sculpture assez incongrue, c'est une femme qui écarte les cuisses. Elle se trouve où? Et ça signifie quoi, évidemment?
Elle est dans un endroit très surprenant, puisqu'elle est dans le cœur de l'église de Loctudi, dans le 29. Mais il n'y a pas que là.
Dans le Finistère.
Mais il n'y a pas que dans cette église qu'il y en a. Il y en a aussi en Bretagne, dans d'autres églises, quelques-unes, mais beaucoup en Irlande et en Angleterre, en Grande-Bretagne. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on met quelque chose qui n'a rien à voir avec la religion? Cette femme qui écarte les cuisses pour montrer son sexe, là. Il y a d'autres représentations comme celle-là. Et en fait, j'ai retrouvé l'équivalent dans une autre chapelle de Cornouailles anglaise. Et en fait, c'est une représentation de la Chinanagig, une déesse païenne. C'est la terre-mère. Elle se trouve aussi dans
une
chapelle.
C'est l'origine du monde, en fait, de Courbet.
Oui, on peut dire ça.
Oui, et elle sourit. Et elle n'a presque pas de corps. Elle a juste un sexe énorme qu'elle ouvre, comme pour dire à celui qui va rentrer dans la chapelle, tu es en train de rentrer dans le ventre de la terre-mère.
Alors Thierry Gauthier, vous l'avez évoqué rapidement, mais il faut le détailler. Ces fontaines miraculeuses, en tout cas auxquelles on prête des vertus miraculeuses. On va en visiter quelques-unes, s'y rendre tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Ce sont des sanctuaires païens ou religieux et depuis des millénaires, les hommes leur prêtent un pouvoir, une énergie particulière. Notre invité qui pratique lui-même la radiesthésie depuis 35 ans nous les fait visiter sur RTL. Thierry Gauthier, vous nous disiez que dans le pays, en France, on peut découvrir des fontaines miraculeuses un peu partout, et notamment en Bretagne, d'où vous venez. Elles existent depuis très longtemps, ces fontaines.
Oui, elles sont là depuis très longtemps, depuis plus de 2000 ans. Hein. Donc les gens s'y rendent. Et je me suis dit, c'est la première question que je me suis posée, si les gens s'y rendent toujours, c'est qu'il se passe quelque chose. Sinon, ils arrêteraient de s'y rendre.
Il s'y passe quoi sur ces fontaines?
Alors ça dépend des fontaines. Alors on leur attribuait des noms de saints. Auparavant, j'imagine qu'à l'époque des Celtes et des Druides, il n'y avait pas de nom particulier, sinon des lieux de culte de la Terre-Mère. Mais après, il y a eu des noms de saints. Et selon les saints et selon la légende accordée aux saints, elles peuvent guérir soit des maladies de peau, soit des problèmes gastriques. Il y a plein de choses, énormément de choses. Ou faire tout simplement marcher un enfant, un nourrisson qui a du mal à marcher. Il y a plein de vertus.
C'est de la mythologie, c'est de la croyance, ou il y a vraiment des miracles qui ont eu lieu autour de ces fontaines?
Je peux vous répondre en disant que, bien évidemment, ça ne va pas marcher avec tout le monde, mais il se passe parfois des choses. Moi, j'ai vu des choses, j'étais le premier surpris. J'ai emmené des gens pour visiter des chapelles et qui m'ont dit après avoir bénéficié d'une guérison qui, pour moi, était presque inespérée. Il se passe des choses, effectivement. Ce sont des lieux d'énergie, on peut être surpris d'efficacité d'énergie des lieux.
À quelle légende ces fontaines sont reliées?
Ça dépend. On peut prendre le cas de la fontaine de Saint-Fiacre, hein, l'intéressante.
C'est où ça?
Saint-Fiacre, c'est en Bretagne, dans le Morbihan, dans le Morbihan intérieur, dans le centre Bretagne. Et c'est un lieu intéressant. C'est sur une colline, vous avez une chapelle Saint-Fiacre. À côté de la chapelle, vous avez un tumulus.
Vous nous rappelez ce que c'est?
Un tumulus, c'est un dolmen qui est enseveli sous la terre, on va dire. Et puis en contrebas, vous avez trois fontaines dédiées à Saint-Fiacre. Donc il y a une légende qui vous dit que Saint-Fiacre est un ermite au 6e siècle, qui guérissait les gens. Mais il y avait tellement de gens à venir le voir qu'il ne pouvait pas les recevoir chez lui. Donc il a été voir l'évêque Damien. Il lui a dit, cher évêque, j'aimerais bien avoir plus de terre pour recevoir les gens qui puissent s'installer dans mon jardin. Et l'évêque lui a répondu la chose suivante. Je vous donnerai la terre pour laquelle vous pourrez creuser avec votre pelle une surface pour la délimiter du matin au soir. Donc demain, vous rentrez chez vous, prenez votre pelle,
vous creusez,
faites un petit fossé, et l'espace que vous aurez ainsi déterminé vous appartiendra.
À la fin de la journée.
Oui, ça paraît complètement fou.
C'est drôle.
C'est une drôle de légende.
Ouais.
L'ermite est rentré chez lui, il a pris le lendemain matin sa bêche, il a creusé, mais la terre s'ouvrait devant sa pelle, miraculeusement. Ah. Donc il y a eu un grand espace, et donc les gens peuvent venir et se faire guérir par très nombreux.
Il y a un rituel à respecter autour de ces fontaines à Saint-Fiacre. Vous l'expliquez dans votre livre « L'énergie des lieux sacrés » qui est publié aux éditions Ouest France. Alors, c'est quoi le rituel?
Le rituel de Saint-Fiacre est très simple. Hein. Il suffit de prendre de l'eau, puisque le Saint-Fiacre dont je vous parle, là, guérit les maladies de peau, psoriasis, eczéma. Mmh. Il suffit de prendre l'eau et de le poser sur la peau.
Il y a des gens qui tournent autour de la fontaine avant de prendre l'eau, c'est ça?
Non, loin de là, Bieuzy-les-Eaux, vous avez une fontaine qui guérirait les rages de dents. Donc il faut mettre de l'eau dans sa bouche et faire trois fois le tour. Mais il y a des choses encore bien plus complexes. Il y a des endroits où il faut faire trois fois le tour, dire autant de « Je vous salue Marie » et après retourner dans l'autre sens.
Ce n'est pas des bigoteries tout ça?
Non, ce n'est pas des bigoteries.
Non.
C'est moi qui pose la question. Hein.
Ce qu'il faut comprendre.
Mais ça fait du bien.
On inverse
c'est
les rôles parce
aussi.
Que c'est plutôt Sidonie qui n'y croit pas du tout. Moi, mon grand-père était médecin des miracles à Lourdes. Il a dirigé la commission des miracles à Lourdes. Donc, c'est quelque chose qui me parle, évidemment, ce que vous me racontez. Mais je sais que le miracle authentifié par l'Église est rarissime.
Oui,
donc
oui,
c'est
oui.
Pour ça que je vous dis, est-ce qu'il n'y a pas une part de bigoterie aussi dans
En fait, je ne parle pas de miracle dans mon livre.
Ouais.
Moi, je vais faire une comparaison au niveau du fait de tourner trois fois, par exemple, avec l'acupuncteur qui va mettre l'aiguille d'acupuncture sur votre corps et qui va la tourner pour créer un petit tourbillon d'énergie, un vortex, de manière à débloquer les énergies. Et je pense que sur ces lieux, que ce soit en Bretagne ou en Irlande, on fait la même chose pour activer l'énergie du lieu. C'est plus la bigoterie, c'est vraiment une création d'un vortex.
Oui, puis c'est peut-être un lieu aussi, je ne sais pas, par exemple, quand on a de l'eczéma et c'est souvent un signe de stress, quand on va se reposer, marcher autour de cette fontaine, on se fait du bien, on lâche prise.
Aussi,
donc peut-être qu'on perd aussi les symptômes et la maladie. Donc tout ça,
aussi, c'est combiné.
C'est lié à l'énergie, à la détente, et ce n'est pas de la bigoterie.
Pourquoi on jette de l'argent dans les fontaines aussi? Est-ce qu'il y a une tradition là qui remonte très loin?
C'est mieux que par les fenêtres, vous me direz.
Oui, il y a une tradition qui remonte à très loin. Aujourd'hui, par contre, elle est mal faite, cette tradition. Aujourd'hui, on jette des pièces en faisant un vœu, comme si on achetait. La réponse, c'est que le fait que le vœu soit exaucé. C'est pas ça du tout. À l'origine, à l'époque des Celtes, on jetait des objets brillants. On faisait des offrandes. Ce sont des offrandes qu'on fait à la divinité. Donc, les objets brillants, qu'est-ce que ça pouvait être? Des objets métalliques, des pièces. mais aussi des bijoux. On les nettoyait pour que ça brille. C'est pas pour rien que les objets de culte qu'on offrait aux divinités, ou même dans les chapelles, sont en or.
Pourquoi ça doit briller ?
Parce que la divinité, elle est lumière. On est obligé d'offrir de la lumière. Et en offrant quelque chose qui nous appartient et auquel on tient, on fait vraiment une offrande. On ne demande pas quelque chose, mais on peut espérer peut-être avoir un retour.
Ouais. Vous avez commencé en disant qu'on a une approche très rationnelle de tout ça. On est en 2016, on essaye de mettre des concepts, de réfléchir. Vous êtes sourcier, vous êtes radiesthésiste. Donc ça veut dire quoi ? Il faut d'abord ressentir cette énergie ?
Le ressenti vient au fur et à mesure. Au départ, j'ai voulu comprendre. J'ai voulu observer, mais en enlevant la compréhension que j'avais historique, regarder autrement. Et j'ai vu les similitudes d'un lieu à un autre, et ça me surprenait énormément. Après avoir utilisé les baguettes de sourcier, j'ai vu qu'il y avait des courants d'eau, mais je ne suis pas le seul. J'ai rencontré d'autres personnes comme moi en Irlande, en Hongrie, un peu partout, qui trouvaient la même chose. Et c'est devenu passionnant de devenir finalement, de faire des découvertes encore aujourd'hui autour de soi, aussi bien sur place que dans des livres, et de découvrir que les statues qui sont là ou des représentations ont quelque chose à dire.
Merci beaucoup Thierry Gauthier.
Merci.
Votre livre est passionnant, L'énergie des lieux sacrés. Il est publié aux éditions Ouest France. Merci. Et dans un instant, on vous raconte l'histoire du poivre, plus précisément l'histoire des poivres.
Vous écoutez RTL.